Bonjour tout le monde. Ben, dure matinée, en particulier si vous êtes un usager du transport en commun et que vous êtes surtout un habitué du métro. Ce matin, inondation majeure dans le métro entre Lionel-Groulx et la station Berry-UQAM. À l'heure où on se parle d'ailleurs, c'est encore un secteur à éviter. On va tout de suite rejoindre sur place notre collègue Philippe Bonneville. Bonjour Philippe.
Alors, toi, bonjour Isabelle.
T'as les deux pieds dans l'eau, mon pauvre ami.
Ou presque, en tout cas, ouais. L'eau est à 2 mètres de moi. Mais voilà. Oui, je vous parle en direct de la station Square Victoria. Je suis à l'intérieur de la station où les gens tentent encore d'évacuer l'eau. Les quantités phénoménales d'eau qui se sont infiltrées à l'intérieur de la station. Écoutez, là, oui, la fuite a été colmatée au cours de la dernière heure. Ça, c'est la bonne nouvelle, Isabelle. Sauf que, on le voit ici, là, c'est impressionnant. Les pompiers qui sont dans l'eau, là, ils ont de l'eau jusqu'au mollet, là. Et même si ça descend tranquillement mais sûrement, il y a encore des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de litres partout dans la station Square Victoria. On a des pompes industrielles qui fonctionnent ici présentement. On tente de limiter les dégâts, mais c'est vraiment une situation majeure, sérieuse, qui se déroule présentement dans le métro.
Oui. Tout à l'heure, je regardais des images assez probantes de ce qui se passe, de ce que tu viens de nous décrire, Philippe. Je ne sais pas si tu as vu toi aussi, il y avait comme une trentaine de personnes, dont beaucoup qui regardaient aussi. des gens de la STM qui regardaient les pompiers, par exemple, parce que les pompiers, tu viens de nous le dire, ils sont là. Ils sont les premiers répondants, donc eux aussi doivent balayer l'eau. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde, puis c'est pas tout le monde qui travaille, qui avait l'air de travailler, là. Est-ce qu'on sait quoi faire ou on se pose des questions en se grattant la tête?
Non, ça travaille quand même assez bien. Là. C'est assez ordonné, je te dirais, Isabelle, parce que je suis devant ces gens-là là, présentement. Ils sont une trentaine, effectivement. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que peut-être que les photos que vous avez vues ont été prises une fois que les boudins et tout ça avaient été installés. Parce que ces gens-là ont donc installé des sortes de barrières. Ils se tiennent à côté de ces barrières-là pour être certains que l'eau ne passe pas par-dessus. On surveille donc la situation et on dirige l'eau qui entre dans la station de métro vers l'endroit où sont installées les pompes. Donc, c'est
on
assez
ordonné. On la refoule d'une certaine façon. Là. On la refoule, on la repousse.
On veut contrôler l'accès pour pas que ça touche l'équipement électrique. Pourquoi, ouais. Isabelle? C'est que pendant au moins 2 heures, on craignait de perdre l'électricité dans la station Square Victoria. Et donc, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'éclairage. Et s'il n'y a plus d'éclairage, ça aurait vraiment complexifié grandement les opérations pour rétablir le service du métro. Là, oui, c'est vrai que la fuite a été colmatée. Ça a été long, hein? Très, très long à localiser cette fuite-là, premièrement, puis à la colmater. Sauf que par effet de gravité, l'eau continue de s'infiltrer présentement dans la station de métro. On n'a pas accès aux rails. Moi, je suis dans les tunnels, dans le fond, là, du métro, mais on n'a pas eu accès au niveau des rails. Mais on nous dit qu'il y a énormément d'eau sur les rails et que ça va prendre encore un bon bout de temps avant qu'on puisse tout pomper l'eau à l'extérieur de la station et par la suite effectuer une sorte de nettoyage, certaines vérifications pour permettre au train de pouvoir passer là. Ça, c'est certain.
Oui, pendant longtemps, ce matin, on ne connaissait pas trop l'origine de la fuite, mais le Luc Trembille, directeur général de la STM, disait tout à l'heure en point de presse, auquel tu as assisté d'ailleurs, Philippe, que... Oui, on t'entend tout à fait. Luc Trembley disait que c'était une conduite de la ville de Montréal qui avait, semble-t-il, cédé. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, Philippe?
J'ai mal entendu la question. Vous me parlez de la conduite d'eau.
Oui, hein.
Je parle de la conduite d'eau. C'est une conduite de 12 pouces. Une conduite de 12 pouces qu'on a eu de la difficulté à identifier, à trouver. C'est une conduite qui se trouverait, semble-t-il, à environ 25 pieds dans le sol, angle Beaver Hall et Vigée. Et là, à l'extérieur, j'y étais il y a quelques instants, il y a beaucoup d'employés de la Ville de Montréal avec des appareils spécialisés qui sont là. Et on nous dit qu'on va devoir excaver pour pouvoir vraiment aller réparer cette conduite d'eau. Ce matin, quand je suis arrivé ici un peu plus tôt, on voyait des employés de la ville justement avec des appareils spécialisés qui tentaient de localiser cette fuite-là. On savait que ça coulait, mais il fallait trouver l'endroit exact et les valves aussi qui pouvaient servir à faire en sorte d'empêcher l'eau d'arriver à cette conduite de 12 pouces. 12 pouces, c'est quand même majeur. Hein? Quand ça brise comme ça, que tout l'eau se retrouve dans le sol, on voit les conséquences. Là. C'est vraiment majeur ce qui se passe ici.
Il y a personne qui aurait... Oui, vas-y.
Pour les gens qui nous écoutent aussi, il faut dire que, bon, là, actuellement, c'est impossible d'emprunter le métro là, sur la ligne orange entre Lionel-Groulx et Berry-UQAM. ce qu'on nous dit à la STM, et c'est vrai, il n'y a jamais un bon endroit pour que ça se produise, une fuite semblable, mais la bonne nouvelle, c'est que la ligne verte du métro, dans le secteur du centre-ville où s'est produit l'incident, elle est parallèle, la ligne verte, à la ligne orange. Donc, pour les utilisateurs du métro, il y a énormément de gens, là, c'est pénible présentement ce matin et depuis l'heure de pointe de se promener dans le métro. Mais avec la ligne verte qui est accessible, au moins, il y a une option pour les gens du centre-ville. On voyait les gens tantôt là, qui descendaient du haut du centre-ville vers le sud du centre-ville. Et beaucoup, beaucoup de gens qui ont donc pris la ligne verte et qui ont pu donc finalement arriver au bureau avec peut-être un peu de retard, mais ça aurait pu être encore pire si ça avait été plus dans l'est ou plus dans l'ouest où il n'y a pas une deuxième option, une deuxième ligne de métro accessible.
Merci beaucoup, Philippe. Bien sûr, tu nous tiens au courant de tout développement là, qui arriverait dans les prochaines minutes. Merci beaucoup pour ces informations. Donc, vous avez entendu, Philippe, si vous ne pouvez pas emprunter la ligne orange, évidemment, pour une raison assez évidente, c'est qu'il y a de l'eau, à moins d'avoir un kayak. C'est une blague, puisque personne, bien sûr, peut y accéder. La ligne verte, c'est votre option. Allons voir avec mon collègue Marc Brière, chroniqueur à la circulation, quelles sont les autres options, Marc, parce que ça a eu des répercussions incroyables sur l'heure de pointe.
Ah, c'est clair, mais ça a amené beaucoup de répercussions au niveau de la circulation automobile. Pour les usagers du transport en commun, ce que Philippe nous racontait, c'est tout à fait vrai. Là, la ligne verte au centre-ville, c'est à distance de marche des stations de la ligne orange. Mais il y a tellement de monde, il y a des gens qui laissent passer 3 ou 4 rames de train de métro avant de pouvoir monter à bord. Donc, c'est particulièrement difficile pour le centre-ville. Il y a aussi un service provisoire de navette par autobus en surface. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a déshabillé des lignes régulières. On a retiré des autobus qui circulaient sur les lignes régulières et on les a amenés en ville pour offrir un service provisoire, faire le mieux avec ce qu'on a. Donc, si vous descendez du métro à Lionel-Groulx, rendez-vous Saint-Jacques et Atwater pour aller vers Berry. Et si vous descendez à Berry-UQAM, rendez-vous au coin Berry-Sainte-Catherine. C'est à cet endroit où vous allez pouvoir emprunter le transport provisoire en direction de Lionel-Groulx. Je dois aussi ajouter que le service est maintenu sur la ligne orange, outre la zone du centre-ville. Par exemple, du côté de Laval, à partir de la station Montmorency jusqu'à Berry, il y a du service sur la ligne orange. Mais évidemment, c'est beaucoup plus long parce que les arrêts en station sont beaucoup plus longs qu'à l'habitude. Et quand on arrive à Berry, il y a une inspection du train là, pour être sûr que tout le monde est descendu.
Ouais.
Donc, c'est grosso modo le double du temps habituel pour vous rendre à Berry à partir de Laval sur la ligne orange. C'est ce que j'ai eu comme témoignage. Et je complète le tout avec, bien sûr, répercussions au niveau de la circulation automobile. D'un, il y a des gens qui ont évité le transport en commun pour éviter les problèmes qui se sont rendus en voiture.
Et ça refoulait jusqu'à Champlain, là, ce matin. Jusqu'au nouveau pont Samuel de Champlain, là, c'était la cohue, là, c'était pare-choc à pare-choc.
Tout à fait. Très difficile. Et au centre-ville, aux abords de cette station, au ACI Square Victoria, c'est toujours congestionné. Je pense à des rues importantes. Bon, il y a la rue du Square Victoria, évidemment, mais Vigée, c'est un axe important à Montréal. Beaver Hall, de la Gauchetière, Union, Belmonte, congestion sur toutes ces rues. Et même en périphérie, là, on doit ajouter Saint-Antoine, Saint-Jacques, de la Gauchetière, plus près de nous, jusqu'à Mansfield, il y a des difficultés. Même la rue de Bleury, plus à l'est, ça aussi, c'est un problème. Secteur à éviter, bref, pour les prochaines heures.
Donc, on ne vient pas au centre-ville, c'est ça que tu es en train de
dire? On évite cette zone du centre-ville.
Ouais.
Si vous allez magasiner en Haute-Sainte-Catherine, c'est sans doute
c'est
mieux.
C'est correct,
quoique stationner, ça va être un autre combat. Mais vous y aurez accès. On maintient du côté de la STM la reprise possible du service pour midi. Mais il faut comprendre qu'il est possible qu'il y ait du service sur la ligne orange, mais je serais surpris qu'on arrête à Square Victoria. Je pense qu'on va juste continuer droit.
Il semble dire, Luc Tremblay, le directeur général de la STM, qu'on rouvrirait pas la station Square Victoria à midi.
Exact.
C'est ce que j'ai entendu.
Exact.
Après, bon,
les trains vont circuler, mais il n'y aura pas d'arrêt. Là.
Non, exactement. Ce qui revient donc à pas de service.
Enfin, jusqu'à un certain point. Mais au moins,
pour
gens pourront circuler au centre-ville,
là.
Mais pas de service pour cette station précisément.
Et là, nous, on essaie. Merci beaucoup, Marc Brière. Merci bien. 514-790-9850. Dites-moi, comment vous vous êtes organisé, vous, ce matin? Parce que, sincèrement, on nous dit de prendre le transport en commun. Prends le métro, prends l'autobus, prends le train de banlieue. On veut bien, on participe, on est d'accord. Mais quand il n'y a pas de service comme ce matin, comment se débrouiller? Il y a beaucoup de gens là, qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Mon Dieu, je reste-tu chez nous ce matin? » C'était une bonne option si vous étiez capable de faire du télétravail. Bonne journée pour le télétravail. 514-790-9850 et bien sûr, sans frais partout au Québec. Vous pouvez nous dire comment ça se passe pour vous ce matin. 1-866-790-9850. Comment vous vous débrouillez-vous? Est-ce que ça vous a également paralysé dans vos transports? Puis là, regardez là, la situation. Ce matin, on comprend, là, c'est pas tout à fait la faute de la STM, puisqu'on comprend que c'est une conduite de la Ville de Montréal qui a lâché. L'origine de la fuite est colmaté, mais l'eau coule toujours, ce qui veut dire que ça risque de paralyser une partie des transports pour cette zone du centre-ville pour un bon bout de temps, qui va dépasser midi. Ça veut dire que dans ce temps-là, il faut vraiment faire démontrer beaucoup de rapidité à se trouver d'autres options. Il y a beaucoup de gens ce matin qui ont senti de rebrousser chemin, aller chercher leur voiture, puis dire, regarde, si t'es obligé d'aller quelque part, moi, y aller en auto. Des gens qui sont peut-être restés chez eux. Dites-moi comment vous faites. Et puis, s'il y a des gens, tiens, André, je vais vous parler tout de suite. Bonjour, André. Comment avez-vous fait, vous, ce matin?
Moi, ça va pas bien. J'ai un rendez-vous au CHUM. Alors, je suis en plein dedans. Je suis partie très tôt parce que je vous ai entendu à la radio, mais c'est impossible. Une lumière, là, ça, j'en passe cinq, là. C'est complètement congestionné. J'espère que mon médecin m'entend.
Ouais, vous êtes à quelle hauteur, là, en ce moment?
Je suis tout près de Saint-Antoine. Près de tourner à Saint-Antoine, je sors de l'autoroute Bonaventure.
Ah, mon Dieu. Ah oui, là, ça doit être effectivement très, très, très congestionné. Je suis passée juste à temps ce matin. Merci, André.
Bon courage.
On va s'arrêter ici. On va poursuivre. Appelez-moi pour nous dire comment ça se passe pour vous. Vous avez entendu André qui avait un rendez-vous à l'hôpital ce matin. C'est sûr que cette zone du centre-ville est très, très, très fréquentée toute la journée, aller et venue. Mais là, vous comprenez que c'est une conduite de la Ville de Montréal. On essaie d'avoir la réaction de la Ville parce que, évidemment, ils y pensent, là. Évidemment, c'est compliqué. On me dit que la mairesse va faire un point de presse dans à peu près 30 minutes, donc on devrait en savoir un peu plus, parce qu'ici, si on cherche la responsabilité, elle est municipale. C'est une conduite d'eau qui a lâché, comme beaucoup de conduites, parce que nos infrastructures souterraines, en particulier tout ce qui touche les aqueducs, les tuyaux, ça date d'un certain temps. Et quand il gèle comme ça, c'est peut-être le gel soudain là, qui a surpris tout le monde, qui est peut-être à la source de ça. On en saura plus d'ici 30 minutes. Vous êtes au bon endroit, bougez pas. Dites-nous, en tout cas, après la pause, de quelle façon ça vous a forcé à vous organiser autrement ce matin. Puis surtout, la grande question, c'est, pensez-vous que le transport en commun, visiblement, tant qu'on n'aura pas un système d'aqueduc, d'égout, d'infrastructure qui soit à point, qui soit rénové, puis ça peut être long, on est à la merci de matinées comme celle-là. Alors, c'est sûr, c'est malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça aide pas les gens qui ont une voiture à se mettre au transport collectif. C'est plate, mais c'est comme ça. Dites-moi si vous pensez un peu ça, vous aussi, ou si, au contraire, vous avez fait votre effort, vous vous êtes mis à utiliser les transports en commun, puis là, ce matin, ben comme des milliers de personnes, vous avez perdu au moins 2 heures. 514-790-9850, 1-866-790-9850. On a avec nous Philippe Derry, qui est porte-parole de la STM, pour faire le point à nouveau là, sur cette situation. Bonjour, Monsieur Derry.
Bonjour, Madame Maréchal.
Faites le point, alors. On vous écoute.
Bien, tout à fait. Ben, écoutez, en fait, la bonne nouvelle, c'est que l'origine de la fuite a été identifiée. L'eau ne pénètre donc plus dans la station Square Victoria ou ACI. Alors, nous, à ce moment-là, nos opérations de pompage et d'assèchement sont en cours. Ça nous permet vraiment d'évacuer l'eau à l'extérieur de la station. Mm-hmm. Ça nous donne bon espoir que le service pourrait être établi avant midi sur le tronçon de la ligne orange entre Lionel-Groulx et Berry-UQAM.
Mais ça voudrait dire quand même que la station Square Victoria pourrait pas être ouverte, hein?
Effectivement, c'est une possibilité, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que même une fois que la station aura été asséchée, c'est quand même de l'eau sale, là, un peu sale, si vous voulez, qui a pénétré la station. On doit aussi faire un bon nettoyage.
Ouais.
Mais là, la priorité actuellement est vraiment qu'on puisse rétablir le service. Par la suite, on pourra réouvrir la station. Mais on va tenir aussi nos clients informés, soit via Twitter ou nos outils d'information clientèle sur le site web. On s'assure de tenir nos clients informés de la situation.
Ben oui, c'est important. Monsieur Derry, ça tombe mal, parce que chaque fois qu'il y a un problème comme ça, puis là, on comprend que c'est pas la faute de la STM ce matin, que c'est une conduite de la Ville de Montréal qui a lâché. On attend le point de presse de la mairesse Valérie Plante d'ici 10h45 à peu près. Mais dans ce cas-ci, malheureusement, vous en faites les frais pareils, puis il y a beaucoup de gens ce matin qui pèsent l'Est. Je leur demande d'ailleurs de nous dire comment ça nuit à leur transport ce matin, nos auditeurs, 514-790-9850, pour nous le dire. Mais M. Derry, ce matin, il y a bien des gens qui disent « Hey, pour une fois, c'est pas vrai que je vais continuer. » Quand c'est pas un bris dans le réseau de métro, même les nouveaux wagons, quelqu'un me disait ce matin, même les nouveaux wagons sont en panne tout le temps, je retourne à mon auto. C'est pas simple de se mettre au transport collectif quand il y a toujours un problème.
Ben écoutez, là-dessus, pour ce qui est des trains Azur, on peut, je tiens à le préciser, là, les trains Azur sont vraiment très fiables. Ils affichent un excellent taux de fiabilité qui est même au-delà de ce qui avait été prévu compte tenu de leur âge. Donc, au niveau de la fiabilité des trains Azur, la fiabilité est au rendez-vous. Le métro reste un moyen de transport qui est très fiable, qui se compare avantageusement aussi aux autres métros dans le monde au niveau du nombre de pannes. Évidemment, ce matin, malheureusement, c'est vraiment une situation exceptionnelle qui est hors de notre contrôle. Mmh. Je dirais que nos équipes ont travaillé d'arrache-pied pour justement protéger les équipements du métro pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conséquences à long terme de l'eau qui est entrée dans la station. Et aussi, bon, on vise à remettre le service le plus rapidement possible aussi. On collabore avec le service des incendies, avec les travaux publics aussi là-dessus.
Mm-hmm. Avez-vous un plan d'urgence ce matin? Par exemple, on parle de protocole, mais vous avez vraiment un plan d'urgence quand ce genre de choses arrivent? D'ailleurs, on se demandait, est-ce que c'est la première fois qu'il y a une telle fuite avec une telle ampleur? On semblait dire que c'était la première fois à l'heure de pointe. Est-ce que c'est le cas, effectivement?
Ah, écoutez, de mémoire, à l'heure de pointe, effectivement, là, c'est un événement qui est assez exceptionnel. Évidemment, au bon secteur du centre-ville, heureusement, il y avait la ligne verte qui permettait un peu de suppléer là, au tronçon qui était interrompu. Mais on est conscient que ça a quand même un impact important sur les déplacements des clients. Puis à l'heure de pointe, bien, comme nos bus sont déjà mobilisés pour assurer le service, c'est plus complexe aussi d'organiser un service de navette parce que déjà, on a notre réseau de bus qui est à pleine capacité.
Et c'est pour ça qu'on se demandait, bon, quel est le protocole qui intervient à ce moment-là? Est-ce que vous avez des façons de faire, une espèce de système d'urgence qui se met en branle comme ça? Parce que, je sais pas, j'ai eu l'impression ce matin qu'il y a eu une période de flottement où on savait pas trop quoi faire, même si vous dites que les équipes ont bien travaillé, on peut le reconnaître, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un processus qui devrait tout de suite s'enclencher?
Oui, ben écoutez, on a des processus qui sont en place. On a des employés qui sont au centre de contrôle, qui font une surveillance vraiment 24 heures sur 24 là, de l'état du métro. Même quand le métro est fermé, on a des employés qui sont là. Puis ce matin, dès qu'on a constaté qu'il y avait une infiltration d'eau, nos employés étaient sur le qui-vive. Puis évidemment, dès que l'eau a atteint la voie, le métro est alimenté à l'électricité par mesure de précaution. Il fallait tout de suite interrompre le service, puis ensuite s'assurer de protéger nos équipements aussi. Par la suite, on regarde les options qui sont disponibles. Là, au centre-ville, il y a quand même le tronçon de la ligne verte qui est parallèle entre Lionel Groupe et Berry-UQAM qui offrait d'autres options. Sinon, quand on le peut, on tente de mettre en place un service de navette, mais comme je mentionnais malheureusement, à l'heure de pointe, c'est certain que c'est plus complexe. Puis on est conscient aussi que même un service de navette ne peut pas remplacer la capacité de transport d'une seule rame de métro, là, un seul train qui peut contenir 1000-1200 personnes environ.
Est-ce qu'on sait savez-vous combien de personnes utilisent la ligne orange dans ce coin-là tous les matin?
Non, écoutez, j'ai malheureusement pas cette information-là sous la main. Mmh.
Est-ce que vous savez à quelle heure on a constaté la fuite?
Ça a été tôt ce matin, là, aux alentours de 6h15 ce matin, on a constaté la fuite.
Est-ce qu'on sait à partir de quelle heure ça a pu commencer à couler? Avez-vous des caméras qui voient ça? Comment vous le savez?
Au niveau que, ben oui, on a des caméras qui sont dans nos stations de métro, puis on a aussi nos employés qui sont sur place, là, qui sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Donc, dès que la fuite a été constatée, dès que l'infiltration a été constatée, on a été en mode vigilance. Puis dès que.
Ça me semble que c'est monté vite, là. Ça a dû être quelque chose de gros qui a lâché. On nous parle d'une conduite de 12 pouces, là. Il me semble que l'eau a monté vite avant qu'il se passe.
Ben, c'est ça, effectivement. Là, on parle d'une conduite de 12 pouces, donc ça amène quand même une certaine pression d'eau. Puis par gravité, ben, l'eau a suivi le chemin. Des escaliers, a atteint les quais, puis comme je mentionnais, dès que ça atteint la voie, pour une certaine quantité d'eau, on a des pompes qui sont on a des stations de pompage dans nos stations de métro, on a des canalisations qui permettent de diriger l'eau pour l'évacuer jusqu'à un certain degré, évidemment. Ouais. Mais pour une infiltration, là, vraiment d'une ampleur exceptionnelle, comme ce qu'on avait ce matin, évidemment que malheureusement, nos pompes ne pouvaient pas suffire
c'est
à la tâche.
C'est sûr. Merci beaucoup, Philippe Derry, porte-parole de la STM. Donc, gros dégât d'eau dans le métro ce matin. Comme tous les dégâts d'eau, ça prend un responsable, ça prend quelqu'un aussi qui paye. On aura sans doute une meilleure idée de ce qui s'est passé avec cette conduite de la ville dans quelques minutes, puisqu'il y a le point de presse de la mairesse Valérie Plante que vous allez pouvoir entendre en direct sur nos ondes. En attendant, ben Denis, vous avez essayé de vous rendre quelque part. Vous aviez des livraisons à faire. C'est difficile là, depuis ce matin.
Ben c'est ça, Isabelle. Bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est ça, j'avais manqué mon rendez-vous, puis là, il fallait que je me rende à Berry-Wickham, puis là, mais c'est ça, puis là, les autobus sont bondés, fait que j'ai manqué mon rendez-vous le matin.
Ah, qu'est-ce que vous allez faire, là?
Ben là, c'est ça, faut que je m'organise pour avoir un autre.
Oui, c'est un peu fâchant, mais qu'est-ce que vous voulez? Dans ce cas-ci, on peut pas être fâché contre la STM, c'est le genre de choses qui arrivent.
Non, mais c'est parce que Isabelle, à un moment donné, là, on est en 2019, on dirait que la ville, ils attendent toujours à la dernière minute. Ça signe dans n'importe quoi. Ils attendent toujours que ça signe le pire des cas. Puis après ça, là, ils se lancent à faire des réparations.
Oui.
Regardez dans le sud-ouest, là, viens voir comment est-ce qu'il y en a de chemins qui sont en travaux, puis ainsi de suite. Les chemins sont encore ouverts, puis sont pas fermés, puis... C'est l'enfer dans le sud-ouest, là.
Ah, je sais. Je sais très bien, Denis. Puis vous avez raison. Merci beaucoup de votre appel. Malheureusement, puis c'est drôle parce que tout à l'heure, le responsable de SM, le porte-parole, Philippe Derry, nous disait qu'on se compare. Nous, notre métro se compare tout à fait aux autres métros dans le monde. Puis j'ai Daniel qui me dit « Hey, faites-moi rire ». Sincèrement, lui, il va souvent à Tokyo. Il dit d'ailleurs « J'arrive de Tokyo, le métro fonctionne avec une redoutable efficacité. Celui de Montréal ne compte que 70... quelques stations, alors que celui de Tokyo en compte plus de 300. Et jamais, au grand jamais, en tout cas selon Daniel, il y a des pannes comme ça, comme il y en a à Montréal. Puis après ça, on demande aux gens d'utiliser le métro. Et lui, il dit, il prend Uber, comme ça, il est sûr d'arriver à temps. Mais là, à matin, même sur la route, c'était congestionné, parce que ça fait l'effet de domino. Fait que là, si t'es habitué à prendre le métro, puis que là, bien des gens, ce matin, je vous le dis, là, ça refoulait jusqu'au nouveau pont Samuel de Champlain. Fait que c'est pas des situations très drôles. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Vous avez peut-être entendu parler de du bris dans la voiture ministérielle de Simon Jolin-Barrette. On a cru qu'il y avait des documents... personnel et surtout des documents importants ministériels qui avaient été volés, mais on les a retrouvés. Ça se passait apparemment dans le stationnement. Bris de confidentialité, ça semble être à la mode parce que ce matin, on apprend aussi qu'il y a peut-être eu bris de confidentialité de dossiers informatisés, le fameux dossier Santé Québec. C'est pas drôle. Est-ce que vous craignez pour votre vie la confidentialité, en fait, de vos informations privées de santé? On en parle tout de suite après la pause. Restez là, tout le monde.